Alors, je ne sais pas si vous avez pu percevoir le rapport des deux textes. Pas vraiment. C'est après de nombreuses lectures du récit de la création dans la Genèse que j'ai découvert une petite pépite. Ce texte parle de la nature qui se développe au fur et à mesure des jours. On constate que chaque journée correspond dans une proportion de temps finalement assez juste à un stade de développement de notre Terre. Peu de choses au début et puis beaucoup plus à la fin. On n'a pas lu le sixième jour, mais l'être humain y arrive, il est créé par la parole, à l'image de Dieu, pour être un être de parole. Mais son existence est évoquée avant le sixième jour. Par quoi ? En quels termes Dieu fait-il mention de l'être humain avant le sixième jour ? Eh bien, au quatrième jour, vous avez entendu la création. On ne veut pas les appeler le soleil et la lune parce qu'on ne veut pas les diviniser. Donc on appelle ça le grand luminaire et le petit luminaire, le soleil et la lune. Mais, donc je vais relire ce passage. Qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes tant pour les fêtes que pour les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires au firmament du ciel pour illuminer la terre. Avez-vous entendu ? Qu'est-ce que vous avez entendu ? Eh oui, la fête. En fait, j'ai été émerveillée parce que la fête est humaine. Elle est faite pour les humains, par les humains. Et en plus, dans les signes, le rôle finalement du soleil et de la lune, elle arrive en premier, avant le rythme. Donc des jours, des nuits, des mois, des années, et même avant d'éclairer toute la terre. Et oui, la fête est inscrite pour Dieu au commencement de la création. Dès le début de la création, eh bien la création ne se confond pas justement avec la nature, et dans toutes nos discussions sur l'écologie, j'y reviendrai, j'en reparlerai, c'est pas juste idéaliser la nature, non, c'est un tout. Nature et culture, il n'est pas uniquement question de ce cadre naturel qui se prépare pour les humains, mais ce récit intègre les humains dans leur relation à Dieu dès le début, parce qu'en effet, la fête, ça va être une fête pour être en relation avec Dieu. C'est donc à partir du soleil et de la lune que le peuple récepteur de cette parole, le peuple d'Israël, va organiser les fêtes religieuses. Alors, question, je pourrais interroger les enfants qui sont là-haut sur la mezzanine. Est-ce que les enfants, vous avez regardé où en est la lune en ce moment ? Vous avez remarqué que la lune, des fois, on ne la voit pas, puis des fois elle grandit, des fois elle est très grande, et puis en fait elle diminue. Alors est-ce que vous avez regardé où en est la lune aujourd'hui ou hier ? Elle est très très grande, et en fait, elle est pleine ce soir. C'est la pleine lune ce soir. Et du coup, eh bien hier a commencé la fête de Pessah, la fête de la Pâque juive, qui célèbre la commémoration de la sortie d'Égypte, la sortie du peuple d'Égypte. Donc la fête de Pessah est basée sur la lune, et les fêtes en général juives. Alors nous, est-ce que encore une de nos fêtes est basée sur la lune et le soleil ? Sur le cycle de la lune, pardon. Eh bien oui, à la suite de la Pâque juive, la Pâque chrétienne dépend de la lune et du soleil. Alors, je vous épargnerai toutes les explications compliquées. Il y a eu des recommandations au moment du concile du IVe siècle. Et du coup, ces calculs ont évolué avec le choix des calendriers julien ou grégorien. Je vous passe les détails. Pour aboutir à nous aujourd'hui, où on peut dire que Pâques a lieu le dimanche qui suit la pleine lune, après l'équinoxe de printemps, le 21 mars. Donc, si la pleine lune avait eu lieu hier, eh bien, Pâques aurait pu être aujourd'hui. Donc, équinoxe de printemps, le 21 mars, et ensuite la pleine lune, et ensuite dimanche de Pâques. Et nous avons une différence de calcul avec l'Église orthodoxe, qui se base sur un autre calendrier. La fête de Pâques, donc catholique et protestante, peut avoir lieu au plus tôt le 22 mars, et au plus tard, le 25 avril. Et la Pâque orthodoxe, ça peut être au plus tôt le 4 avril et au plus tard le 8 mai. Et de temps en temps, eh bien, nous avons la même date. La dernière fois, c'était en 2017, c'était le 16 avril, et la prochaine fois, cela tombera en 2025. Donc en 2025, eh bien, nous pourrons nous réjouir de fêter Pâques en même temps que les orthodoxes. Tout ça pour dire que la Lune et le Soleil, eh bien, continuent à être une mesure importante pour calculer nos fêtes. Donc la fête de Pâques est du même coup les rameaux, l'Ascension, traditionnellement 40 jours après Pâques, et puis Pentecôte, 50 jours après Pâques. Alors là, nous sommes à la fête des rameaux qui ouvre à la semaine sainte. Donc cette semaine très importante, je dirais même plus importante que Noël, cette semaine où nous souvenons de ce qui est arrivé à Jésus, de la trahison dont il a été victime, de son procès, son humiliation, sa souffrance sur la croix et sa mort. Alors, chez nos amis luthériens, il y a même une célébration tous les jours, peut-être que chez les réformés autrefois aussi, et nous, nous axerons cela le vendredi saint. Et puis dimanche prochain, eh bien, nous fêterons la vie relevée, la résurrection de Jésus. Alors oui, la fête fait partie de notre vie humaine, en particulier pour célébrer notre relation à Dieu. Et évidemment, ça nous manque. Ça nous manque de ne pas pouvoir célébrer les rameaux comme on le fait habituellement, en amenant des branchages, en le célébrant avec les enfants, ou bien en faisant un moment de communion avec nos frères et sœurs de la communauté FJKM, comme nous l'avions fait il y a 2 ans quand je suis arrivée, et les années précédentes aussi. En tout cas, la fête permet de se souvenir de ce que Dieu fait pour nous. Cela permet aussi d'être reliés les uns aux autres, en communion avec Dieu. La joie de faire la fête ensemble, c'est une joie qui nous rend vivants. La joie ancre dans nos vies la trace de Dieu. Oui, c'est une joie aujourd'hui de pouvoir nous réunir malgré tout. Alors, malgré tout, eh bien, je dois vous dire que la fête des rameaux, pour moi, a toujours un goût amer. Et c'est finalement le seul dimanche de l'année où j'ai toujours du mal avec cette ambivalence de la fête à gorge déployée, je pourrais dire, et puis de ce qui va suivre après. Jésus a organisé lui-même son entrée à Jérusalem. Donc en lien avec les prophètes qu'on a entendus, il choisit sa monture, il monte sur l'ânon, tout petit, c'est tout petit un ânon, il se met en route. Il est sur une monture ridicule. Quand on veut acclamer quelqu'un d'important, on le met sur un cheval par exemple, au-dessus. Jésus sur cet ânon, il était peut-être même plus bas qu'une personne debout. Et pourtant, cette mise en scène est un accomplissement des Écritures. L'arrivée du Messie-Roi à Jérusalem se faisait sur un ânon tout jeune. L'humilité est assumée par Jésus. Alors il est acclamé par une foule qui crie « Hosanna, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, béni soit le règne de celui qui vient, le règne de David notre Père, Hosanna au plus haut des cieux ». Ce sont de belles acclamations, de belles paroles. Elles témoignent de la reconnaissance de Jésus comme le Messie, qui est héritier de la lignée de David. Mais oui, mais de quel Messie parlons-nous? Le Messie que Jésus vient incarner va être un grand sujet de quiproquo et de malentendu. On attendait un Messie libérateur, qui resterait éternellement libérateur du peuple d'Israël, dans un lieu précis. Quiproquo, oui. Juste avant notre passage, on voit les deux disciples, Jacques et Jean, qui se battent pas, parce que, voilà, il faut mieux écrire les dialogues, mais en tout cas, ils désirent s'attribuer une place de choix auprès de Jésus, dont ils n'imaginaient pas la mort. Finalement, voilà, le désir de se montrer important à côté de Jésus, qui était quelqu'un de fantastique. C'était... Voilà, même les disciples, cela ne les a pas épargnés. Et puis, après notre passage, eh bien, Jésus chassera les marchands du temple pour montrer que la relation à Dieu a été dévoyée. L'adoration à Dieu ne se fera plus dans le cadre des sacrifices, mais par sa propre personne. Et d'ailleurs, C'est peut-être sur ce malentendu, sur ce même malentendu de l'image du Messie attendu, que Judas va livrer Jésus. Judas, un disciple qui a suivi Jésus, il sait la puissance que Jésus porte en lui. Peut-être qu'il veut que Jésus la révèle une bonne fois pour toutes, à tous, que Jésus dise qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est ce Messie. Mais il ne pourrait pas être entendu et jamais Judas n'aurait imaginé qu'il serait livré à la mort. Ce n'est pas ce Messie-là que Jésus vient révéler. Malgré les miracles, les paroles, sa vie humble et attentive aux autres, malgré tout cela, les chefs religieux qui ont le pouvoir décident qu'il est nuisible, qu'il n'est pas le Messie attendu. Il ne répond pas à leurs critères. La foule est nombreuse à acclamer Jésus. Mais une foule n'a pas de volonté propre, elle est entraînée. Lisons un peu plus loin, au chapitre 15, au moment de la comparution de Jésus devant Pilate, il demande « Voulez-vous que je vous relâche, le roi des Juifs ?» Les grands prêtres excitèrent la foule pour qu'il le relâche plutôt Barabbas. « Crucifie-le !» crie la foule. Est-ce la même foule que celle des Ramons ? En tout cas, cela fait réfléchir. Une foule n'a pas forcément raison, on se laisse vite prendre par l'émotion, on ne réfléchit plus. C'est une question à se poser aujourd'hui. Est-ce que je serai de ceux ou celles qui ont crié « crucifie-le » ? Par quoi je me laisse entraîner ? Alors la question est actuelle, mais elle s'est posée en tout temps. Quand un ami me dit « As-tu entendu telle ou telle chose ?» ou bien « Es-tu au courant de cela ?» Oui, bien sûr, j'ai envie de faire partie de la communauté de ceux qui savent. Alors aujourd'hui, bien sûr, les lieux d'influence sont amplifiés par Internet, par les réseaux sociaux. Ça amplifie cette tendance à se laisser entraîner. Je lisais un article cette semaine sur des jeunes qui réagissaient immédiatement à certaines actions mises en scène, filmées sur Internet, et du coup, il peut y avoir des comportements à risque qui sont répétés. Comment peuvent-ils avoir le recul nécessaire pour décider ce qui est bon à faire après avoir laissé l'émotion retomber? Mais c'est valable pour nous aussi. Certaines personnes imaginent. Cela m'est arrivé il y a peu de temps que c'est de leur responsabilité de transférer des informations qui viennent de sortir pour en informer tous leurs contacts. Prendre ce qui nous arrive avec calme, prendre le temps, et le temps c'est ce qui manque aujourd'hui dans notre société, prendre le temps de regarder ce qu'il vaut la peine de croire et éventuellement de relayer. C'est difficile sur un système qui s'appuie justement sur la réactivité, sur celui qui veut être le premier à annoncer, premier à dire. La parole que moi je veux relayer est-elle nécessaire pour faire avancer ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire ce qui est en lien avec ma foi, la paix, la bienveillance, l'espérance? Ne nous trompons pas de gloire. Faire partie d'une communauté virtuelle ou non, qui se laisse entraîner comme la foule des rameaux ou la foule de l'accusation, ou bien à l'inverse, accepter la discrétion et la lente maturation d'une nouvelle qui porte une puissance bien plus grande. Une puissance qui nous aide à discerner ce qui contribue à l'avancée du royaume. Soyons les ouvriers du royaume pour la seule gloire de Dieu. Amen.